Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur.
C'est la queue du dinosaure qui s'est prise dans le ventilateur. Là.
Oui, voilà, oui, j'ai bien senti là,
le
la douleur.
Le ventilateur a souffert. Hein.
J'espère que t'as que un peu moins. C'est donc les bébés dinosaures, comme tous les dimanches soirs de 21h30 jusqu'à 23h. Alors c'est un peu la reprise. Enfin, il y a eu deux émissions quand même ces deux dernières semaines.
Ah bah quand même, ouais.
Voilà. Disons que
c'est la reprise pour vous.
Oui, voilà.
Voilà.
Reprise pour pas mal d'auditeurs courageux.
Voilà.
Et voilà. Enfin, bon, la formule, je pense, ne changera guère.
Reprisée comme une vieille chaussette.
Oui, voilà. Il faut qu'on se bouge un peu pour se trouver peut-être un thème d'ici peu quand même.
Ah, j'en ai quelques-uns pour toi.
Il faudra qu'on... Oui, je te fais confiance. Il faudra qu'on se trouve peut-être un album classique aussi, parce que qu'on a abandonné ces derniers temps. Là.
Et on a été paresseux là.
Voilà. On a fait les plus évidents, je sais pas, une petite vingtaine, un truc comme ça, là, d'albums marquants des 70s.
On n'a pas fait Machine Head. Hein.
Mais voilà, il y en a certainement qu'on a oublié. On a fait un Deep Purple, non ? On a pas fait In Rock ou je sais plus. Faudrait vérifier quand même.
Ouais, vérifier, mais je n'ai pas l'impression. Mais
et bon. On a toujours notre groupe de l'année, alors entre Halloween 2021 et Halloween 2022. Et c'est toujours Creedence.
Eh ouais.
Voilà, et sinon les rubriques habituelles, hein, je pense qu'il n'y aura pas d'énormes changements. La rubrique fromage de chèvre.
Tu nous feras une rubrique Digit.
Rubrique Digit. Voilà, avec
une rubrique 45 tours pourris.
Voilà, bon bah écoute, c'est reparti comme en 40.
Voilà, the earring has landed. Non, c'est the eagle. Ah, the earring, si, parce que c'est Golden Earring. Golden Earring, avec un extrait de leur album de 68, je crois, qui a été le premier où ils ont commencé à ferrailler avec des guitares vraiment saturées. Ils avaient fait, je crois, 3 ou 4 albums avant où ils s'appelaient The Golden Earrings, avec un S à la fin, et puis ils faisaient des trucs de pop un peu gentils. Là, ils s'appellent The Golden Earring, et puis je crois qu'ils vont laisser tomber le The après et devenir Golden Earring. Et ils sont pas encore à l'époque de Radar Love, là. C'est l'album qui s'appelle 8 Miles High, parce que toute une phase de l'album, c'est une méga longue version du morceau des Birds, 8 Miles High. Mais après, quand t'as volé à 8000 de hauteur, il faut atterrir, et sur l'autre face, on trouve ce morceau qui s'appelle Landing. C'est un atterrissage en douceur.
We'll be right back. feel it, and the first thing I thought, never let go. I held it as close as I could, but it didn't grow like it should. And then after hours, I opened my ear. I found myself back on the floor near my bed. Nothing had changed, it was all.
Début, on va dire, des premiers albums, un peu progressif encore là.
Ouais, c'est un mélange de trucs, c'est un mélange de trucs, c'est progressif heavy quand même. Mais 69, hein, pas 68, excusez-moi, donc c'est pas vraiment en avance sur son époque, mais ça se débrouille, c'est un peu, ça manque un peu de nerfs quand même, mais bon.
Oui, on va en mettre un petit peu, quoique, c'est du nerf, mais sous influence. Figure-toi que dans 15 jours, la Foire des Ténèbres est de retour avec un numéro spécial. La Foire des Ténèbres, c'est l'émission qui précède les bébés dinos.
Oui, bah, celle que vous venez d'écouter.
Voilà. Avec des thèmes souvent. Et donc, le thème de la semaine prochaine,
dans 15 jours.
Dans 15 jours, c'est Ozzy Osbourne.
Ah ah ah.
Et pour fêter la sortie du nouvel album et sans doute dernier album d'Ozzy Osbourne, qui sort le 9 septembre, je crois.
Alors, pourquoi sans doute dernier, il est malade
Il n'est pas trop en forme.
Il n'est pas jeune.
Et puis, bon.
Il a vécu une vie toute d'hygiène, de sport et de santé.
Oui.
Presque.
Oui, si on peut dire.
Il ne faisait pas du ski
C'était
un amoureux de la neige Non, j'avais compris
la
ça.
La neige, oui. Et puis, il faisait beaucoup travailler ses avant-bras et ses coudes aussi, vois. À part qu'il n'utilisait pas des poings, mais des bouteilles de vodka. Mais
voilà, il faisait des contractions avec les poings, ouais.
Oui, voilà. il paraît qu'il y a un biopic qui est envisagé sur Ozzy Osbourne.
Il faut qu'il se dépêche.
Ça peut se faire après la mort de la personne en question. Hein,
c'est même plus pratique, oui, quelque part.
Oui, c'est sûr. Voilà, ce sera donc un jour un spécial Ozzy Osbourne. Ma foi, on écoutera ça avec attention. Et pour fêter cette nouvelle, on va s'écouter Ozzy, mais bon, à la grande époque, enfin à l'époque Black Sabbath en tout cas, avec une version live d'un morceau qu'on a écouté il y a 15 jours, repris par un groupe un peu obscur, tu sais, sur la compilation Marijuana Greatest Hits. Donc c'est le morceau qui, sur le disque, sur la version originale, commençait par une toux. tout à fait explicite. Et là, c'est une version live. Alors, c'est une version live au Rainbow Theater en 73. Et je pense que ce n'est pas la même que celle qu'il y a sur le Live at Last. Parfois, quand tu cherches sur Internet, tu trouves des versions de Sweet Leaf qui sont créditées donc, comme inédites, mais qui sont en fait la version qu'il y avait sur le Live at Last, qui a un son un peu boueux, on va dire. Alors, cette version-là, elle est disponible sur une des rééditions de l'album Volume 4 de Black Sabbath. Mais attention, la réédition en 4 CD, où tu as des inédits, des raretés, sans doute les versions stéréo, les versions mono, enfin le truc vraiment pour le fan. Mais vous pouvez la trouver par ailleurs, hein, en fouinant un peu. Donc Sweetleaf live en 73, et c'est donc Ozzy Osbourne au vocaux, bien sûr, qui sera le héros de la Foire des Ténèbres sur Canal Sud 92.2, dans 15 jours, juste avant les bébés dinos. Sweetleaf.
Yeah.
Oula, j'étais pas trop sûr comment finir le morceau. Hein.
Ouais, ouais, ça dérape un peu. Mm. Mais enfin, c'est une bonne version.
Oui, 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 oui. Le passage rapide au milieu en particulier.
Voilà,
est tout à fait enlevé.
Frénétique. Ouais, ouais. Mm. C'était Black Sabbath, donc en 73, avec une version live de Sweet Leaf. Mm.
Eh bien, nous allons nous écouter, vous l'attendiez tous, Zalatné Sarolta. Donc, Zalatné, c'est son nom de famille, bien sûr, et Sarolta, c'est son prénom.
Bah, évidemment.
Et à vrai dire, son vrai nom, c'était, je ne sais plus.
Encore plus bizarre, j'imagine.
Non, justement, c'était Carole Blucher ou un truc comme ça, un truc avec une consonance allemande et désespérément plat. Je crois qu'elle a voulu avoir un nom hongrois un peu plus. Qui sonne un peu mieux pour des Hongrois, en tout cas, puisque c'est une chanteuse hongroise, qu'on s'écoute sur son album Almodj Velem, qui, alors je prononce sûrement mal, hein, tous les Hongrois dans l'auditoire, excusez-moi, qui est sorti en 72, et sur lequel elle est accompagnée par Lokomotiv Gete, bien sûr, Lokomotiv Gete, le meilleur groupe de rock hongrois de l'époque, même si c'était un peu trop progressif parfois pour nos oreilles. Et donc on s'écoute une chanson qui s'appelle, alors je le prononce sûrement de travers, Céleste Nagyon. Zalatné Sarolta. Et la chanson, c'est Céleste Nagyon, mais ça, elle doit le répéter environ 48 fois, donc ça va, maintenant, je sais le prononcer.
Eh ben, dis donc, tu es fan, il n'y a pas de doute.
Ouais, malheureusement, tu vois, tu as un morceau sur deux qui est comme celui
qui suit, là. Il faut quand même être honnête avec les auditeurs.
Ouais, mais non, c'est qu'on travaille, hein, on vous choisit quand même.
Des fois, c'est
ce qu'il faut.
Mais elle avait des morceaux très péchus, on va dire.
Oui, ben on s'en était déjà passé deux, hein, tu sais.
Oui, je me rappelle.
Donc voilà, on va peut-être continuer d'explorer ce disque, mais c'est bientôt fini, il faudra repasser à... Ah, comment elle s'appelle? Bon, j'oubliais pas. L'autre chanteuse qui a été accompagnée par Lokomotiv Gete, qui est beaucoup plus connue.
Alors là, c'est pas moi qui vais te souffler son nom.
Kovács Kati.
Ah oui, pourtant c'est plus facile à retenir. Oui,
ouais, c'est plus simple, ouais. Et Kovacskati, ça en voit aussi. Hein. Je ne sais pas si tu as regardé la vidéo un jour de Rock'n'Roller.
Pas encore, non,
j'avoue. Excité. Hein.
Bon. Eh bien, d'autres excités. Radio Birdman. On les a passés assez peu, finalement, dans l'émission. C'est un groupe, quand même, qui est né au milieu des années 70. Et qui étaient des héritiers du Detroit Sound, du MC5, des Stooges, mais qui étaient aussi des grands fans de Blue Oyster Cult. D'ailleurs, récemment, il y a quelques semaines, quelques mois, on s'est écouté une de leurs reprises des Stooges et une reprise de Blue Oyster Cult sur leur live à Sydney de 76, je crois. Là, on va revenir à leur premier EP, donc, qui est lui aussi sorti en 76, me semble-t-il. C'est ça, le Burn My Eye EP avec le morceau I-94.
Ah oui, oui. Voilà. C'est une autoroute qui doit passer près de Detroit, celle-là.
C'est ça, ça mène jusqu'à Chicago et puis après ça continue plus loin ça fait tout le nord-est des États-Unis en fait, ça traverse tous les États-Unis vers l'ouest plutôt. Mais en restant au nord, quoi. Alors, c'est aussi, j'ai appris en regardant sur Internet, c'est aussi un document qu'on demande à l'entrée du territoire américain dans certaines conditions.
Oui, d'accord.
Mais là, c'est bien l'autoroute quand même, puisqu'il explique, enfin, le narrateur, alors, les paroles sont très obscures. Notamment, il y a des Eskimo Pies qui volent dans tous les sens. Là. On peut se demander ce que c'est.
Vrai, oui.
Même s'il parle du Klondike au début. Là, bon, enfin, bon, bref. Mais il dit à un moment qu'il vit à Lincoln Park, donc à Détroit, et qu'il travaille à Willow Run. Et Willow Run, c'était, semble-t-il, une usine d'armement qui se situait un petit peu à l'ouest de Détroit, qui était construite en 1941, quand les États-Unis sont rentrés en guerre. Et c'est aussi le nom d'un petit bout de la I-94, parce qu'apparemment, elle porte différents noms, différents tronçons de l'autoroute portent différents noms. Quoi. Et il y a cette fameuse ligne I-94 full of holes, pleine de trous. Et je me rappelle que quand je suis allé de Détroit à Chicago et qu'on a pris la I-94, une copine qui conduisait nous avait cité cette petite phrase de la chanson. Et on avait vérifié que oui, l'autoroute est pleine de trous, effectivement. Tu as des nids de poules au milieu de l'autoroute. Ça, c'est l'entretien des autoroutes aux États-Unis. Tu sais, je vais raconter l'histoire. Là. Il n'y a pas d'entretien public, bien sûr. Mais par contre, tu peux adopter et financer l'entretien de 1 mile d'autoroute. Adopt a highway. Tu as des panneaux comme ça tout le long de l'autoroute. Et si tu donnes donc de l'argent pour entretenir 1 mile, eh bien ton nom est écrit sur je ne sais quel mur, je ne sais quel endroit, et tout, on te rend hommage et tout ça. Mais ça ne marche pas du tout. Et donc il y a des trous partout. Bref, I-94, donc c'est un des morceaux classiques de Radio Birdman des débuts. C'est un groupe australien, mais vraiment héritier quand même.
Il y avait Dennis Tech dedans, venait de Detroit. Voilà. Et peut-être que les paroles sur « Je vis à tel endroit, je travaille à tel endroit » étaient autobiographiques.
Possible, oui.
Il a été pilote de chasse.
C'est ça, il était dans l'armée, oui.
Il a été médecin pour l'armée aussi, je crois. Oui.
Peut-être, et je crois qu'à Willow Run, il construisait des bombardiers, si je me souviens bien. Est-ce que l'usine est restée après la guerre? Ça, j'en sais rien. De toute façon, les paroles sont très obscures, mais le morceau est marquant. Et s'il évoque Détroit, donc par ses paroles, au niveau musical, moi je trouve qu'il évoque pas mal le Blue Oyster Cult des débuts aussi. Les Radio Birdman, donc en 76.
Remember when we were living up in the Klondike?
ce morceau, ils l'ont pas composé à Detroit, ils l'ont composé à la plage en Australie. C'est du surf, je te dis. Je t'entends pas.
Ah ben voilà, c'est que oui.
Tu t'es coupé le micro toi-même.
Coupé moi-même.
Ça m'arrive aussi.
Je m'auto-censure, tu vois. Ça vaut mieux des fois. Et donc, oui, il y a un petit côté surf, un petit peu de reverb. Là. Et, mais aussi une mélodie, peut-être même le solo qui peut rappeler le Booster Cult des débuts. Et voilà, c'est le premier EP de Radio Burman, leur premier vinyle.
Eh bien écoute, on va s'écouter un peu de Humble Pie. La semaine dernière, j'ai passé pas mal de temps sur The Pusher, un des morceaux de la bande originale du film Easy Rider, et un des morceaux qui ont fait le succès de Steppenwolf, l'autre étant Born to be Wild. Et aucun des deux n'étant écrit par les membres du groupe au moment où ils ont été enregistrés par le groupe et où ils sont sortis, puisque Born to be Wild, c'est Mars Bonfire qui avait été dans une version précoce de Steppenwolf, qui s'appelait surtout The Sparrow, en fait, à l'époque. Ça fait The Sparrow, ça fait ça, c'est quand même, ça veut dire le moineau, hein. Ça paf, ça n'a pas le même impact que Steppenwolf, hein, mais
bon, c'est sûr, ouais, ils ont changé, disons, de registre animalier.
Il paraît que c'est Gabriel Mecler, leur producteur, qui leur a dit de, qui leur suggérait le titre du roman de Hermann Hesse. Et donc, The Pusher, lui, c'était de Hoyt Axton, comme on l'a longuement expliqué la dernière fois, et Born to be Wild de Mars Bonfire, qui avait quitté le groupe au moment où c'est sorti, mais qui était le frère du batteur, enfin, c'était Mars Bonfire, son vrai nom, c'était Edmonton, c'était un frère de Jerry Edmonton, qui restait longtemps batteur chez Steppenwolf. Bref. On va passer à Desperation, qui était aussi un morceau du premier album de Steppenwolf. Un morceau particulièrement sinistre, lugubre, désespéré. Comme, ça s'appelle Désespoir, hein, Desperation. Et on se l'était passé il y a 15 jours, il me semble. Eh bien, on va s'en écouter une reprise faite peu après hein, la sortie de leur premier album, faite en 69 sur le premier album de Humble Pie. Alors, on s'était passé à la version studio de Humble Pie il y a je ne sais pas combien d'années. On va se passer une version live qui a été enregistrée à BBC le 17 août 1969, figure-toi. Hein, voilà. Humble Pie, Desperation. Alors, attends, on était peut-être pas au début, là. J'ai dû me planter. Est-ce qu'on peut recaler?
On va essayer.
C'est le numéro 4.
Alors, attends.
Et peut-être qu'il est parti sans qu'on s'en rende compte parce que...
Déjà, j'essaie de l'arrêter, là, tu vois, parce que c'est pas évident.
Ouais.
Oh là 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 là. Ça y est, la platine redevient folle. Alors, attends. Non, bah, écoute, il veut pas s'arrêter. Ah, ça y est. On va essayer de recaler. Bon, apparemment, ça a été recalé.
Sinon, c'est nous qui allons l'être.
Hein. Wonder. Will the world ever Il me semble que cette version est quand même plus dynamique que celle de Steppenwolf.
Oui, ben, c'est Steve Marriott, si tu veux, toujours un peu énervé.
Très soul. Non, c'était pas mal. Eh bien, tiré de la bande-son de Easy Rider aussi, on va s'écouter, alors en se rapprochant d'un de nos thèmes d'il y a 15 jours, Don't Bogart Me. Un grand morceau sur le thème de la marijuana et qui figure, qui a été repris sur la compile Marijuana's Greatest Hits dont on parlait il y a 15 jours.
Alors Bogart, c'est un verbe assez rare en anglais.
C'est sûr, alors je pense que c'est certainement une expression qui devait tourner dans les milieux hippies de San Francisco. Ça fait allusion au fait qu'il fumait ses clopes jusqu'au bout, tu vois, jusqu'au bout du filtre et tout.
Voilà. L'acteur Humphrey Bogart. Ouais.
Voilà. Et c'est devenu une expression quand même totalement internationale. Hein, je veux dire, ça se dit toujours. Hein. Ouais, tu bogartes. Ouais.
Ah, dis donc.
Ah oui, bah oui. Donc bogarter, ça veut dire garder le joint au lieu de le faire tourner, tu vois. Parce qu'un joint, ça se partage, bien sûr. Ça se fait tourner. Alors, quand un gars le garde trop, généralement, c'est cette interpellation qui fuse. Et arrête de bogarter, mon gars.
Et, d'accord.
Et oui.
Donc, c'est une autre manière de dire paste de chi.
voilà. On ne pouvait pas dire mieux. Donc, le verbe bogarter existe en français maintenant, effectivement. Mais ce n'est pas accepté au Scrabble, hein, je vous préviens. Le titre original, c'est Don't Bogart Me. C'est devenu après, souvent dans les innombrables reprises qu'il y a eu de ce morceau, Don't Bogart That Joint.
Oui, parce que c'est ça qui chante en fait.
Oui.
Mais je crois qu'ils n'osaient pas l'écrire.
My friend. Alors, sur la pochette, je ne crois pas que ce soit écrit effectivement.
Non, sur la pochette, c'est écrit Don't Bogart Me.
Don't Bogart Me. Voilà. Et des fois, tu vois marqué Don't Bogart Me entre parenthèses That Joint. C'est bon. Bref, c'est un morceau des Fraternity of Men, qui est un groupe de San Francisco. Qui a sorti deux albums quand même, mais bon, à part ce morceau, j'avoue qu'ils ne sont pas vraiment restés dans les annales. Enfin, ce morceau a suffi à les rendre internationalement connus, mais il n'y a pas grand-chose d'autre que je connaisse de ce groupe. Les membres quand même étaient, enfin, l'un d'entre eux venait des Mothers de Frank Zappa, et après il a joué à Captain Beefheart. Et il y en a trois autres, je crois, qui étaient dans le groupe pré-Little Feat, Factory, le groupe de Lowell George. Et peut-être se sont-ils retrouvés ensuite dans Little Feat, je ne me rappelle plus trop. Donc c'est un groupe un peu éphémère, disons, de la scène de San Francisco, mais qui restera quand même dans l'histoire du rock envapé grâce à ce morceau Don't Bogart Me, qui est donc sur la bande-son de Easy Rider, puisque évidemment, dans Easy Rider, ça fume à tout va. On s'écoute on s'écoute la version originale, hein, tirée de la bande-son du film.
Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Roll another one. Just like the other one. You've been hanging on to it, and I sure would like a hit. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Another one, just like the other one.
that one's just about burned to the end. So come on and be a real friend. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Everybody sing along this time.
Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me.
Voilà, un standard de la country, une merveille tout à fait. Oula. Évidemment, il y a des trucs plus musclés dans la bande son d'Easy Rider. Un morceau où on sent quand même que les musiciens et les chanteurs savent de quoi ils parlent. Don't Bogart Me, donc, sur la bande son d'Easy Rider par Fraternity of Men.
Eh bien, on va s'écouter un petit peu de Bob Seger, du Bob Seger, alors une période assez, comment dire...
Très tardif, là. Hein.
Oui, tardif, intermédiaire, quelque part, mais enfin, ouais c'était en 2000.
En 2000, attends, Bob Seger, après 76, déjà.
Voilà, mais bon, donc, il était devenu une espèce de momie springsteenienne, qui est toujours depuis, hein, c'est conservé dans le formol, mais il fait de la musique qui peut être défendable. On va s'écouter un morceau qui s'appelle Lock and Load, c'est une histoire terrible, c'est une chanson, tu vois, qui est presque un récit sur un mec qui veut absolument avoir son fixe de drogue, et puis le seul moyen qu'il voit pour faire ça, c'est d'aller braquer une boutique d'alcool, mais évidemment ça se passera mal, très mal.
Ouais, tranche de vie. Bob Seger, donc.
From the cold. can sit here in the back half of my life and wonder when the other shoe will fall. Or I can stand up,
je me suis planté, c'est pas cette chanson-là que j'avais annoncé. Bon ben, tant pis, celle-ci s'appelle Lock and Load.
C'était Bob Seger quand même.
Voilà, c'était Bob Seger quand même, c'était vigoureux.
Un peu poussif quand même.
Ah, qu'est-ce que tu veux.
La mélodie est pas mal finalement, le riff est pas mal, mais si ça avait été le Bob Seger du début des années 70 ou de la fin des années 60, ça aurait eu une autre gueule, quoi. C'est normal,
on est en
2000 là.
C'est,
bon.
C'est devenu effectivement... La Lincoln qui va pas trop vite. Ouais. Tu t'es encore coupé le micro.
Ça reste un truc inconscient.
Il va falloir te faire une ablation du coude ou quelque chose comme ça.
C'est pas avec mon coude que je l'éteins. Je n'oserais dire.
Ne nous étonnons pas sur les détails.
Oh, une petite rubrique maintenant. Attends. Reprenons nos esprits.
Nos quoi ?
Notre neurone, je voulais dire. Like a rolling stone. Like the FBI and the CIA and the BBC. Tu avais enquêté sur Matt Busby.
Oui, c'était un entraîneur de football, je crois. Un truc comme ça. Oui, je crois, c'est ça. Oui. Il a dû être joueur et puis ensuite il a une longue carrière de coach, d'équipe, des choses comme ça. Il était très populaire à une époque.
Eh bien, c'est la rubrique Digit. C'est pas une rubrique foot, hein, je vous rassure. C'est la rubrique Digit, dans laquelle on rend hommage à cette émission mythique de éphémère d'abord, puis Canal Sud, qui a duré une bonne trentaine d'années, et dans laquelle, bien sûr, qui était drivée par Gilda, à laquelle on a participé. Et alors, il y a différents angles, disons, pour... rendre hommage à l'émission Digit. Parfois, c'est les groupes fétiches de Digit, ces groupes qu'on passait très très souvent. Parfois, c'est les premiers tubes des toutes premières émissions de Digit. Ça rappelle les souvenirs et puis ça fait redécouvrir des choses qu'on avait un petit peu oubliées. Parfois, c'est les morceaux actuels, les groupes actuels qu'on aurait pu passer à Digit si l'émission existait encore. Et bien là, c'est encore autre chose. C'est le groupe qu'on aurait passé à Digit si on l'avait connu à l'époque. C'est un album de 79 dont je n'avais jamais entendu parler. Toi, peut-être si. C'est un groupe qui s'appelait, un groupe britannique qui s'appelait The Gangsters.
Ah non, ça me dit rien.
Alors il y a des groupes du même nom mais qui font dans le reggae, dans ce genre de trucs. Eux, non, c'était du power pop. Alors bon, c'est quand même, ils sont restés très obscurs. Ils ont sorti 2 45 tours, je crois, et un album en 79. À peu près leurs 3 disques sont sortis la même année, je crois. Il y en a un qui, par la suite, il s'appelait Richard Holgart. Il a été guitariste de Eddie and the Outroads, mais disons dans des versions un peu tardives de Eddie and the Outroads. Et tous les autres membres, apparemment, n'ont rien fait d'autre. Et c'était de la power pop, mais putain, vachement accrocheuse. Enfin, je trouve ça très très bien. Alors, leur album a été réédité, mais il est difficile à trouver. Mais il y a des morceaux qui traînent sur YouTube, notamment. Et on va s'écouter l'un d'entre eux, et tu vas voir que, alors sur ce morceau-là, parce que c'est moins le cas quand même sur les autres, il y avait un côté très ramonesque, qui n'est pas fait pour me déplaire, à vrai dire. C'est en 79, hein, donc c'était quand même bien avant la vague de pop-punk américain, tu sais, à la Ramones. Là. Et eux, c'était des Anglais. Hein. The Gangsters, donc le morceau s'appelle Best Friend. C'était sorti en 45 tours à l'époque, et ça figurait aussi sur leur album, leur unique album, sorti en 79. The Gangsters, Best Friend.
I've tried to phone you, but I just can't get no answer. Only want to see you now and then. Don't want no big romance, oh no, not me. Why won't you let me be your best friend? Why won't you let me be your best friend? Why won't you let me be your best friend? Why won't you let me be your best friend? I know you're going with someone else. He's a punk, but it's your decision. I spoke to your mom and she said he would end up in prison. She's got some sense. Now don't be silly, I don't want to go with her. Listen to me. Why won't you let me be your best friend? Why won't you let me be your best friend? Why won't you let me be your best friend? Why won't you let me be your best friend? Overlooked and underfed, I ain't no Valentino. Besides, he's probably good in bed. I'm sorry, I should not have said that. Oh no. Why won't you let me be your best friend? Why won't you let me be your best friend? Why won't you let me be your best friend? Why won't you let me be your best friend?
Whoops, la best friend. Les Gangsters, donc groupe britannique de la fin des 70.
Eh bien écoute, je vais passer du Pavlov's Dog, comme ça, sans raison, pour tous les amateurs de chiens parmi vous, et de David Surkamp, le chanteur à la voix si particulière. C'est un extrait de leur deuxième album, qu'on a quand même moins pratiqué que le premier, parce qu'évidemment le deuxième album est sorti trop vite après le premier, peut-être qu'il y avait moins d'inspiration. Mais il y a quand même des morceaux qui sont pas mal du tout dessus. On s'écoute un de ces morceaux qui s'appelle « She Breaks Like a Morning Sky ».
Close the door and grab your wraps, and don't even say why. There's a girl outside, she talks with the moon and stars in her eyes. You gotta be quick, you gotta be cool, you know what I mean.
Morceau beaucoup plus long.
Voilà, c'est des morceaux courts aussi. Avec un seul saxophone quand même assez énervé, que, dont je subodore qu'il est dû à Andy McKay de Roxy Music, parce qu'il est crédité sur l'album au saxophone, mais il y a aussi un autre saxophoniste, Michael Brecker, donc je ne suis pas tout à fait sûr duquel a fait le saxophone sur ce morceau. Et leur producteur avait trouvé des musiciens de studio qui étaient des pointures quand même pour leur deuxième album. Bah, ça suffit pas forcément.
Oui, bah, disons que le premier était vraiment un choc énorme. Moi, j'écoutais beaucoup quand j'étais au début du lycée. Le morceau de Julia, là, notamment. Le deuxième m'avait un peu déçu, à vrai dire. Parce que je l'avais acheté un peu de temps après, en fait. Ils étaient déjà sortis, ça date de quoi,
76.
Oui, voilà, c'était deux albums qui étaient déjà sortis depuis quelques temps.
Ils sont sortis, ils sont sortis à peu près dans la foulée l'un de l'autre.
Hein. C'est vrai que c'était moins marquant quand même. Quoi. On va s'écouter notre petit morceau de Creedence, là, quoi, parce que c'est quand même notre groupe, encore notre groupe de l'année. Hein. On avait plus ou moins, après avoir passé des morceaux de différentes époques, de différentes origines, avec pas mal de morceaux solo de Fogerty aussi, de John Fogerty. On avait commencé un peu à réexplorer la discographie chronologiquement, et on en était à Cosmos Factory. Et c'est-à-dire le dernier vraiment très bon album de Creedence. Hein. Il en reste deux qu'on survolera un peu plus rapidement. Et dans Cosmos Factory, entre autres tubes, il y a le morceau All Stop the Rain, qui est une de leurs grandes ballades. Aux paroles quand même un peu triste, un peu sinistre.
Ça c'est sûr. Maintenant, comment dire, est-ce que tu crois que c'est vraiment politiquement bienvenu de passer un tel morceau à la fin d'un tel été?
Non, c'est sûr que là tout le monde est en train de supplier que la pluie tombe, en tout cas dans certaines régions, quoi, putain. Mais évidemment, c'était une image, la pluie en question, bon, c'est tous les malheurs du monde, quoi.
Ouais, les injustices et tout ça.
Voilà, il fait référence à Woodstock, où là, pour le coup, la pluie était tombée, quoi. Mais il fait référence aussi aux politiciens qui ne peuvent pas changer grand-chose, aux chanteurs qui, eux non plus, ne changent pas grand-chose. Enfin, c'est un morceau un peu pessimiste, quand même, quoi. Donc, qui arrêtera la pluie, métaphoriquement, c'est mal barré, quoi, en gros. Mais là, ce sera plutôt qui arrêtera la sécheresse. Bah, c'est mal barré, là aussi, à vrai dire. All Stop the Rain, donc, c'est quand même un grand morceau. La célébration live qu'on va s'écouter, alors le live à Auckland, celui qui était sorti en 1980, mais qui avait été enregistré en 70. Alors il est sorti sous différents titres, notamment The Concert. C'est le live qu'il faut avoir de Creedence, hein, parce que celui qui est sorti à la fin de leur...
À la fin de leur contrat sur Fantasy, oui, voilà, dans les années 70. Ouais.
Voilà, celui-là n'est pas bon. Quoi. Ouais. Celui-là, il est enregistré à 3.
Live in Europe, il l'appelle.
Voilà. Ouais. Voilà, celui-là est vraiment... Bon, c'est vraiment des versions un peu poussives. Quoi. Alors que celui-ci de 70, c'est bien péchu. Et puis, il y a un autre live mémorable, c'est justement celui de Woodstock, où ils avaient joué entre deux énormes averses, là, et qui est très tendu et très ténueux, avec un son très cru. Celui-là est pas mal aussi, quand même, ce live... à Auckland le 31 janvier 1970. Donc on s'écoute cette version live de Who'll Stop the Rain. Live donc en 70, Who'll Stop the Rain.
Eh bien écoute, petit 45 tours pourri, Françoise Hardy. Françoise Hardy, à une époque un peu curieuse de sa carrière, c'était début des années 70, elle n'était plus avec Vogue et elle cherchait à faire des choses un peu plus originales. Et là, elle a fait un album qui s'appelait Soleil en fait, qu'on a appelé Soleil, je crois qu'il était peut-être non titré au début. Et. Sur lequel se trouve la chanson qui s'appelle Soleil, qui a eu un modeste succès, elle n'était plus dans les hit-parades comme avant. Et là, c'est un autre morceau de l'album, en fait, mais qui est sorti en single, qui est une composition de Mickey Jones. Alors, Mickey Jones qui a été dans Spooky Tooth, bien sûr. Bon, enfin, ça dit rien.
Comme tout le monde.
Voilà. Mais qui a été aussi longtemps guitariste mercenaire de Johnny Hallyday. Et donc, Mickey Jones, Tommy Brown et puis Hugues de Courson.
Il n'a pas fait Foreigner après là,
non ? Oui, c'est lui qui a fait Foreigner après, alors il s'est fait plein de thunes.
Il ne fallait pas le lire, pardon.
Et puis Patrick Modiano, je crois. Enfin, il y a un P. Modiano, donc il doit c'est le texte sans doute. Voilà, ça s'appelle Je fais des puzzles.
Des yeux, des seins. croisière sans me dire où il allait. Dans quelques années-lumière, il m'a dit qu'il reviendrait.
D'un précurseur de la musique électronique en France qui s'appelait Jean-Jacques Perret.
EVA, Extravehicular Activity.
Probablement.
C'est sorti dans l'espace.
Très spatial, effectivement. C'est que ce mec-là, quand même, il a sorti son premier disque en 1958. Il était apparemment. C'était un médecin, mais qui s'est passionné pour l'ondioline, qui était un orgue électronique inventé par un inventeur français. Alors il s'est fait embaucher par le gars. C'était un accordéoniste amateur, tu vois, mais l'ondioline, il trouvait ça génial. Donc je n'ai aucune idée des sons que ça pouvait produire, mais apparemment, il a accompagné avec Charles Trenet et Edith Piaf.
Allez, donc, l'ondioline, on paraît une marque de suppositoire, mais...
Et n'empêche qu'il est parti aux États-Unis, il a rencontré le gars qui a écrit Popcorn, il a collaboré avec lui. Il a rencontré, comment il s'appelait-il, Moog, Phil Moog, ou, enfin, je ne sais plus le nom de Moog, oui. Phil, c'est ça, hein, l'inventeur du premier synthétiseur, enfin, en quelque sorte, quoi. Et il s'est fait un nom aux États-Unis, il a une grosse réputation, et puis après, il est revenu en France, et semble-t-il que, après disons, la fin de sa carrière musicale, il s'est intéressé à... Il est revenu dans le domaine médical, puisque il travaillait sur des séquences musicales afin de vaincre les insomnies, des personnes qui ont des troubles
insomniaques.
Ça, c'est sûr, pas besoin d'aller chercher loin. Écoutez les bébés dino. Alors, son premier album, il s'appelait Prélude au sommeil. Tu vois, c'est quand même. Et tu sais sur quel label ? Institut Dormiphone.
Je sais pas si écoute. Et c'est tiré de cet album ?
Non, ça c'était en 58. Ça c'est tiré de son album Mood Indigo en 1970.
D'accord.
Alors bon, bien sûr, c'est le genre de curiosité, on va dire, qu'on peut trouver sur certaines compiles, et notamment la compile French Cuts, volume 1, où il y a des tas de trucs comme ça, un peu à la Wiz, on va dire, et des choses beaucoup plus classiques de la pop française des 60s ou 70s. Quoi. Les French Cuts, c'est au moins 3 volumes, c'est pas mal. Il y a quand même des bizarreries qui valent le coup. Donc là, c'était Jean-Jacques Perret, quand même un personnage visiblement.
Eh bien, on va taper dans une autre compile, celle-là qui est beaucoup plus familière à nos auditeurs, la série Brown Acid, avec le volume 12 à nouveau. Ils en sont 14, hein, je vous signale. Mais dans le volume 12, il y a Stage Fright, qui était un... Alors, Stage Fright, ça veut dire track, hein, mais c'était un... Comment dire, ils le décrivent comme un bar band, un groupe de bar qui jouait du hard rock dans le Missouri, mais dans le fin fond rural du Missouri, tu vois. Et en 1980, ils jouaient encore des choses qui peuvent figurer sur une pareille compilation, qui est quand même axée, comme ils le disent très franchement, sur la période 1968-1976. Un choix tout à fait raisonnable, n'est-ce pas ?
Ah oui, ça, voilà, on cautionne totalement.
Voilà. Et donc, on s'écoute un morceau de Stage Fright qui s'appelle Coming Home, tiré de leur unique album, je pense, sorti en 1980.
but for the last time, I'm coming home. 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 I'm coming home.
Et un peu bordélique de Wild Thing par Marsha Hunt.
Marsha Hunt.
Et oui, sur son premier album, Woman Child. Alors, dans la version anglaise en tout cas, parce qu'après il y a eu plein de versions.
Mais pourtant, j'ai cet album.
Et bah, écoute, tu dois l'avoir, voilà, ce morceau. Ouais, ouais. Il figurait, c'était le dernier morceau de la face B de, de cet album, produit en grande partie par Tony Visconti, sur lequel jouaient Ian McLagan, Kenny Jones, Mark Bolan, Pete Townsend, etc.
Bah, tu sais qu'elle était sur Track Record.
Et oui. Ouais, voilà. Et on reprenait trop moins trois morceaux de Mark Bolan. Et bon, après, on a déjà beaucoup parlé de Marshall. C'est vrai que sa carrière musicale a été un peu météorique. Mais ce premier album, et le deuxième aussi, hein, c'est, avec des musiciens beaucoup moins prestigieux, le deuxième, était quand même très très bon, quoi.
Ah oui, donc c'est excellent. Et puis tu trouves des vidéos sur YouTube avec des choses. Je suis pas sûr que ça soit sur les albums. Il faudrait que je vérifie.
Je pense qu'elle a fait après un album, mais beaucoup plus tardif. Non, il n'y en a pas un troisième dans les années 80, 90, je ne sais plus.
Ah, ça, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a un qui est sorti uniquement en Allemagne, en Belgique.
C'est le deuxième,
celui-là. C'est le deuxième qui a quand même des trucs remarquables. Oui. C'est une version de Servant Man avec les coups de fouet. Il écrit.
Tout très, très soul, très, très péchu. Ouais. Et puis le premier avec beaucoup de reprises aussi. Et quand même des interprétations. Très personnelle et disons comment dire accrocheuse. Sa reprise là de Dr. John là, Walk on Gilded Splinter, c'est quelque chose aussi. Voilà, Marsha Hunt donc en 71 cet album Woman Child.
D'accord. Eh ben on se lance tout de suite un petit morceau de Joel Daidé tiré de son deuxième album White Soul. Ah lui c'était soul mais blanc. Et comme on va déborder, le morceau s'appelle Overtime.
My woman's gone. Why to care?
Overtime, Day Day qu'on connaît bien sûr plus pour Mamie Blue, mais qui a fait plein d'albums à lui, donc celui-là était le deuxième. White Soul, sorti en 1972, après qu'il ait gagné plein de fric avec Mamie Blue, je pense. Et sans plus d'embâge, on va quand même, comme il est bientôt 23h, faire nos annonces standards de fin d'émission. Vous venez d'écouter, oui, vous êtes encore en train d'écouter pour quelques minutes, les bébés dinosaures qui se déroulent de 21h30 à 23h approximativement sur les 92.2 MHz de Canal Sud à Toulouse et dans les environs. Et puis dans le monde entier, il faut aller récupérer l'émission en allant sur l'URL qui est www.canalsud.net. Et là vous pouvez nous écouter en streaming en direct et vous pouvez aussi récupérer les MP3 de tout un tas d'émissions archivées. Il y a environ 500 émissions, un peu plus peut-être même, qui vous attendent. C'est tout à fait gratuit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Sauf effacer le serveur, ça, vous pouvez pas. Et on peut aussi nous écouter en rediffusion les lundis de 15h30 à 17h, donc on vous recommande tout ça. Il y a une page Facebook, mais bon, on va s'arrêter là. Et on va passer à la rubrique qui fait fuir Sylvain chaque dimanche soir, mais si, presque quand même. Et ce soir, on va s'écouter Byron Berline. Alors, Byron Berline n'est peut-être pas le violoniste, le violoneux le plus connu du monde. Mais quand même, il a joué avec les Dillards. Alors, les Dillards, c'était les deux frères Dillard. Alors, ils se sont séparés au bout d'un moment. Il y en a un qui est parti avec Gene Clark, l'ancien Bird, pour former un groupe qui a duré 2-3 albums qui s'appelait Dillard & Clark. Alors évidemment, c'était un semi-jeu de mots sur Lois & Clark, la célèbre expédition, qui avait traversé l'Amérique sauvage à l'époque où elle l'était encore, au début du 19e siècle. Et Byron Berline a fait son premier album en 77, il s'appelle Dad's Favorites. Il est mort l'année dernière, tiens, en 2021, le pauvre homme. Et Dad's Favorites, c'est plutôt des vieilles chansons. C'était sur Rounder Records, qui est un des labels majeurs du folk, du country, du folk, de la musique traditionnelle, du bluegrass américain. Et aussi du folk song, des choses comme ça. On va s'écouter donc un morceau tiré de cet album, et donc c'est des morceaux déjà ancien à l'époque, l'album est sorti en 77, mais c'était des trucs d'avant-guerre. Ça s'appelle Ragtime Annie, et c'est donc par Byron Berline.